Ça recommence au Palais de justice, les amis, tranquillement, pas vite. Et on va s'intéresser, d'ailleurs, à une cause qui a été spectaculaire. On en a parlé beaucoup, puis c'est en train de connaître les derniers dénouements, mais c'est pas nécessairement ce qui se passe à l'intérieur du Palais de justice, où là, on est rendu aux plaidoiries. C'est un dossier où on étudie la sentence d'un individu, Hugo Fredette. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est passé un incident dû à la pandémie. J'ai l'impression, parce que là, il y a des témoignages, tout ça, que ça a été fait un peu à distance avec des micros. Mais là, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont connu des anecdotes semblables, pas aussi spectaculaires, mais des anecdotes du même genre pendant le télétravail. Tu sais, le genre que t'as une télé, t'es en conférence, tu penses que le micro est fermé, puis il était ouvert. Ben, c'est ça qui est arrivé avec le condamné, parce qu'il est déjà condamné, Hugo Fredette, dans cette histoire-là. Apparemment qu'à un moment donné, il parlait, son témoignage était comme fini, mais le micro était resté ouvert. Et là, il aurait dit des choses assez épouvantables. Alors, pour en savoir plus, on va replacer toute l'histoire avec notre invité. On va aller rejoindre la journaliste de Cogeco à Montréal, Annie Guillemette. Annie, bonjour.
Bonjour à vous.
Rappelle-nous un peu, là, l'histoire d'Hugo Fredette, ça avait frappé, ça avait fait jaser énormément, mais des fois avec la distance. Rappelle-nous d'abord un peu les faits, puis après ça, on va parler de l'étape où on est rendu, puis des incidents qui se sont produits.
Donc, les événements remontent à 2017, en septembre. Vous vous rappellerez peut-être d'une alerte Amber qui avait créé beaucoup, beaucoup d'émotions partout à travers le Québec. Cet individu-là avait poignardé son ex-conjointe devant des témoins mineurs, dont un enfant avec qui il avait pris la fuite. Au cours de cette fuite-là, de cette cavale-là qui a duré des heures, eh bien, il y a eu un autre meurtre qui a été commis, un meurtre parce qu'il voulait voler un véhicule pour poursuivre sa cavale de façon, entre guillemets, incognito. Et donc, Hugo Fredette a été arrêté plusieurs heures plus tard du côté de l'Ontario, toujours avec cet enfant-là qui avait 6 ans à l'époque et qui vivait des émotions terribles depuis plusieurs heures maintenant.
Donc, bon, Hugo Fredette avait déjà, je l'ai appelé le condamné parce qu'il a déjà eu son procès, il a été condamné, sentant sa vie. Ça, c'était déjà passé. Donc là, comment ça se fait qu'on se retrouve de nouveau au palais de justice? De quoi on discute, là?
C'est parce que il a commis 2 meurtres. Il a été déclaré coupable de 2 meurtres prémédités, donc écope automatiquement d'une sentence à perpétuité, mais avec une possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Ça, c'est la théorie. Depuis 2011, au Canada, il y a une nouvelle disposition du Code criminel qu'on appelle communément le cumul des peines dans les cas de meurtres multiples. Vous en avez beaucoup parlé à Québec parce que il y a le cas aussi de la mosquée de Québec qui est visée par cette même nouvelle disposition-là. Il y en a pas des tonnes au Canada, heureusement, là, des cas comme ça, mais il y en a 2 au Québec qui sont présentement devant les tribunaux. Et donc, il y a discussion devant le tribunal présentement en cour supérieure à savoir est-ce que Hugo Fredette devra purger 25 ans d'emprisonnement avant de pouvoir présenter une demande de libération conditionnelle, ou bien 50 ans, parce que dans les 2 cas, on parle de meurtre prémédité et que la peine minimale est de 25 ans.
OK, donc c'est dans ce cadre-là, là, les avocats discutent pour la sentence. C'est dans ce contexte-là, j'imagine, en pleine pandémie, il y a des trucs à distance, qui est arrivé le fameux incident du micro ouvert.
C'est ça, c'est que tout a changé dans les panneaux de justice depuis les dernières semaines. Et lundi, c'était en quelque sorte le redémarrage des causes non urgentes dans les palais. Donc maintenant, on peut suivre une cause à distance à partir de notre foyer. Les journalistes peuvent le faire, les gens aussi, les citoyens peuvent le faire parce que la justice est publique au Canada. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que nous étions la majorité des journalistes au Palais de justice de Saint-Jérôme. On suivait les audiences. Pendant l'heure du dîner, tout le monde sort de la salle. Mais il y a quand même des gens qui avaient laissé leur ordinateur ouvert sur leur table de travail ou à la maison pendant l'heure du lunch. Et donc, entre 2 sandwichs, il y en a qui ont entendu des choses un peu bizarres. J'ai eu l'occasion de réentendre quelques extraits. Ça peut être très troublant, là, parce qu'on sait qu'Hugo Fredette est reconnu pour être un homme narcissique qui met la faute de ses 2 meurtres sur la planète, mais pas sur lui-même. Et là, il discutait probablement avec un gardien, parce qu'on ne voit pas la 2e personne à qui il parle. Et il a entre autres dit, écoutez, moi là, Guy Turcotte, on se souviendra de cette de ce personnage aussi. Je peux comprendre pourquoi il a poignardé ses deux enfants. Quand on est passé par là, on comprend ça. Il voulait, j'en suis sûre, punir de la plus pire façon son ex-conjointe, et c'est pour ça qu'il a poignardé ses enfants. Je le comprends, moi, je suis capable de le comprendre. Entre ça, il a aussi parlé de ses entre guillemets, exploits au pénitencier où il est présentement détenu. Selon lui, il empêche des bagarres, il protège des détenus. Il fait bien rouler les choses dans le pénitencier où il est présentement. Donc, il s'est vanté de plusieurs choses. Et il a eu cette petite confidence, entre guillemets, à propos de Guy Turcotte. Bien sûr.
Est-ce que ces propos-là peuvent être retenus contre lui pour reprendre une expression consacrée, là, Annie? Là, tu nous as bien expliqué le contexte, mais est-ce que l'avocat qui veut la sentence la plus sévère, ben, c'est-à-dire la libération conditionnelle la plus tardive, parce que la sentence, il l'a déjà eue, tu l'as bien expliqué, mais est-ce que ces propos-là pourraient être retenus contre lui?
Eh bien non, ils ont été tenus alors que la juge Myriam Lachance n'était pas, comme on dit, sur le banc. Donc, pas pendant l'audience comme telle, ça ne fait pas partie de la preuve. Donc, ces propos-là ne seront pas retenus. Peut-être qu'ils auraient pu l'être s'il avait témoigné lui-même, mais il n'a pas témoigné finalement. Son avocat a pris cette décision-là donc, avec lui à la fin de la preuve hier. Donc, Hugo Fredette ne témoigne pas, ses propos ne seront pas retenus. Il y a quand même des preuves là, quand même accablantes qui militent pour une longue peine d'incarcération à propos de Hugo Fredette, là, bataille d'experts psychiatriques, des dossiers de plein de gens et aussi le fameux dossier carcéral, parce que là, il est derrière les barreaux depuis quand même plusieurs mois maintenant. Et le dossier carcéral parle d'un risque élevé de récidive, un risque élevé de tentatives d'évasion et de danger très élevé pour le public si jamais il est remis en liberté. Donc, on parle d'un homme dangereux. Selon le personnel carcéral, cet homme-là a démontré qu'il était prêt à tout faire pour avoir ce qu'il veut. La meilleure preuve de ça, c'est qu'il a tué un homme à main nue, tout simplement pour y voler son véhicule parce qu'il voulait poursuivre sa cavale.
Annie, l'expert psychiatrique de la Couronne a même parlé de troubles narcissiques dans le cas du Hugo Fredette.
Oui, là, on s'obstine. Vous savez, chez les médecins, les diagnostics sont toujours difficiles pour avoir l'unanimité. Les deux médecins, autant le docteur Louis Morissette à la Défense que le docteur Gilles Chamberlain du côté de la poursuite, décrivent cet homme-là comme narcissique et présentant un manque flagrant d'empathie. C'est le degré qui est différent. On parle de troubles narcissiques du côté de la poursuite et de traits de caractère, de traits de personnalité du côté de la défense. Mais on a quand même eu la même idée du personnage, là. C'est à des degrés divers. Et là, on est rendu dans le médical, là, donc c'est pas quelque chose que je peux vraiment vous commenter. Mais on a deux points de vue vraiment différents à propos de Hugo Fredette.
En terminant, la décision sera rendue quand, Annie?
On faudra passer par les plaidoiries à partir de demain. Bien sûr, ça sera pris en délibéré. On risque d'avoir ça au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Okay. Bien sûr, il y a une décision constitutionnelle aussi à obtenir, et ça, c'est la Cour d'appel du Québec qui doit la rendre dans le dossier Bissonnette, et ça prendra encore probablement quelques mois.
Annie Guimet, journaliste à Cogeco Montréal, merci beaucoup de nous avoir parlé.
Plaisir, au revoir.
Bonne journée. Donc, Hugo Fredette, de retour en cours pour déterminer, il est déjà sentencé à vie, là, pour les deux meurtres, mais un peu comme avec Alexandre Bissonnette, vu qu'il y a deux meurtres, là, ça peut aller au-delà de 25 ans avant qu'il y ait une libération conditionnelle. Ça peut être 30, ça peut être 35, 40, on verra bien. Fait que là, ils sont en train de s'ostiner en cours pour ça, ben, de débattre. Mais il y a un incident où le micro reste ouvert, puis il parle, puis les journalistes ont entendu la conversation où il dit que lui, il comprend Guy Turcotte d'avoir tué ses enfants.
Ça en dit long sur le personnage.
Hein? Oui, ça en dit long, puis il y a d'autres choses aussi là-dedans. Mais ces éléments-là, moi, c'est ce que je voulais savoir, ne pourront pas être retenus contre lui parce que ça ne s'est pas passé comme tel dans l'événement en cours, puis en plus, il ne témoigne pas. Plus on en apprend sur lui, hein, plus on voit à quel point c'est un être dangereux. Là, je ne veux pas répéter tout ce qu'Annie a dit, mais ça fait partie des individus qui, tu sais, il y en a qui sont criminels, on dirait, depuis leur enfance. Là. Mais lui, il a quand même mené une vie Il n'est pas devenu, il l'était à l'époque déjà, j'imagine, dangereux,
ben, narcissique. C'est une double vie un peu.
Tout ça, il a vraiment eu une double vie. Ouais. Là. En plus, c'est un gars qui faisait des documentaires sur des trucs criminels, qui se portait parfois à la défense des victimes. T'sais, il a évolué dans ce milieu-là un peu.
Mais t'es fasciné par le milieu criminel. Ça, c'était une de ses caractéristiques. C'est fréquent chez des tueurs d'avoir cette fascination pour le monde policier, le monde criminel. Et Hugo Fredette, quand on parle de double vie, ce matin dans la presse, on expliquait un peu que les antécédents avec Véronique Barbe de violence conjugale dataient d'il y a longtemps. Là. Dès 2010, il y avait eu un cas où est-ce qu'elle avait tenté de le laisser. Lui n'avait pas accepté. Il était venu cogner à la porte. L'avait forcé à avoir une relation sexuelle. Elle avait tenté de s'enfuir. Il était allé la harceler à la voiture. Elle s'était enfuie en voiture. Bref, un individu qui terrorisait réellement la victime.
Il faut faire attention. J'ai dit double vie, mais c'est double vie pour nous, le public, parce que Gaufredette était un peu connu là, dans le monde des documentaires, des affaires criminelles. T'as bien raison que pour sa victime, ça n'a jamais été une double vie. Ça a été un monstre pendant longtemps, son ex-conjointe notamment. Et l'autre monsieur, lui, qui a été tué à main nue juste parce qu'il avait volé son char, Annie l'a dit. Donc, deux actes, des actes très graves pour lesquels il a été sentencé à vie. Autrefois, ça aurait été terminé là parce qu'automatiquement, il était éligible après 25 ans. Mais là, la nouvelle loi, qui est d'ailleurs contestée en cours, là, c'est pour ça que, comme Annie a dit, ça pourrait être plus long. Oui. Mais la nouvelle loi permet de garder en dedans au-delà de 25 ans, ce qui est pour moi une bonne nouvelle.